Et ça, ce n'est pas de la fiction. France Inter, la différence.
15h03 sur France Inter, l'heure de là-bas si j'y suis, et c'est avec Daniel Marmet.
Bonjour Daniel, toute l'équipe et tous les AMG. C'est Manaïs qui vous appelle de Creuse. J'ai entendu une info sur France Inter ces jours-ci qui indique que des personnes se rassemblent en association pour surveiller les maisons de leurs voisins pendant les périodes de congé. Une personne interrogée dit avoir été abordée par un vendeur de tapis. Elle a alors relevé le numéro d'immatriculation du véhicule et l'a communiqué tout de suite à la gendarmerie. Je me pose la question, si une mère de famille lui avait demandé son chemin, cette même personne aurait-elle communiqué le numéro du véhicule aux gendarmes? Des gens se mobilisent pour défendre leurs biens. Ceux-ci seront-ils autant mobilisés si leurs voisins font grève pour protéger leurs emplois? Si leurs voisins ont besoin d'un don de plaquettes ou d'organes, s'inquiéteront-elles ces personnes de ne pas voir leurs voisins pendant quelques jours ou attendront-elles d'être dérangées par une odeur de cadavre pour prévenir les services de secours? Je pense qu'il reste à espérer que cette mobilisation temporaire et matérialiste tissera des liens entre les personnes qui permettront une attention humaine et quotidienne entre voisins. Ça, c'est l'espoir, parce que sinon, cette association me fait un peu peur. Je vous souhaite malgré tout, à tous et à la planète, une bonne année 2010.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Ici Elisabeth, du comité de soutien aux sans-papiers de Vitry. Ça fait 10 semaines que des travailleurs sans papier campent sur le trottoir devant le centre des impôts à Vitry-sur-Seine. Ils réclament leur régularisation et la régularisation de tous les sans-papiers. Ils dénoncent l'hypocrisie de l'État qui encaisse leurs impôts et leurs cotisations mais ne les reconnaît pas et les pourchasse. Ils sont une quarantaine à dormir sur le piquet de grève. Le froid, la neige, les menaces d'évacuation par la préfecture ne les ont pas fait reculer. Ils tiennent parce qu'ils ne sont pas seuls. Des habitants amènent à manger, donnent de l'argent, du charbon de bois. Des organisations, des élus, des citoyens apportent leur soutien. Les gars du collectif des sans-papiers ont du courage et ils nous donnent du courage. Ils réveilleront jeudi soir sur le piquet, qui est situé 81 rue Camille Groult à Vitry. Passez les voir, passez nous voir. C'est facile, depuis Paris, il faut prendre le 182, arrêt Camille Groult. Merci.
Voilà un endroit formidable pour passer le réveillon. Merci là-bas si j'y suis. Merci les AMG, les auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. L'affaire des sans-papiers, la longue affaire des sans-papiers, qui est un faux problème, renvoie à un autre faux problème qui est celui de l'identité nationale. Si on prend l'identité nationale comme une poupée russe, et si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, on trouve l'islam, l'épouvantable islam avec son voile. Et si l'on ouvre la poupée russe de l'islam épouvantable avec son voile, on trouve une autre poupée russe qui est l'islamiste burqa et attentat. Terrifiant celui-là. Plutôt celle-là, cette poupée russe. Et si on l'ouvre, on trouve, le bouc émissaire avec son couteau entre les dents et ses doigts crochus qui conspirent contre la France. Et oui, c'est ça ce qu'il y a dans la poupée russe de l'identité nationale derrière la fausse question des sans-papiers. Pourquoi parler de tout cela? Eh bien, c'est que tout ça permet de masquer et de faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire la question sociale et la question du chômage, de la la pire crise de chômage depuis des années. Et les prévisions pour 2010, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, sont très mauvaises. Très mauvaises, pas pour tout le monde, parce que la destruction du travail peut créer du travail. Et oui, nous l'avions montré au mois de mai dernier, le 6 mai exactement, avec ces bien jolis métiers que sont manager de transition, consultant de restructuration, de vrais jolis métiers, ceux des licencieurs. Eh bien, on va les retrouver aujourd'hui pour ce morceau choisi dans cette année de là-bas. Auparavant, encore un message parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG, c'est pour signaler que le repère des amis de là-bas si j'y suis de Briouze, dans l'Orne, pourrait se réunir le mercredi 30 décembre au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, à 17-18 heures. Si le temps et la disponibilité de chacun le permettent, bien sûr. En tout cas, meilleurs voeux à tous, c'était Claude.
Combien de plans sociaux vous avez dû faire ?
En tout. Beaucoup. Un plan social, c'est d'abord une démarche très volontaire de la part d'une entreprise. Enfin, on sait bien qu'elle met en jeu son image. Elle met en jeu aussi des sommes qui sont très importantes. Quoi qu'on puisse en dire, une société qui rentre là-dedans fait une démarche qui quand même est risquée et qui demande un certain courage. Le métier de management de transition est le métier que je fais aujourd'hui. Et pour moi, c'est un jeu. Je vis de façon extrêmement heureuse et sympathique cette fonction. Hein.
Est-ce qu'il était légitime ?
Ouais, je pense que c'est un plan social légitime. Il était légal en tout cas.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Pascal Pascariello, manager de transition, un bien joli métier.
Flight number 2, arriving from New York.
On est au cœur de la défense, et on a un peu l'impression d'être dans un quartier américain, il y a des grandes tours de partout autour de nous. Les deux tours qui nous entourent sont celles de Total et Areva. Ce sont deux clients potentiels.
Nous, on travaille en confidentialité. Et donc, on a des accords de confidentialité. On ne peut pas citer le nom d'un client, sauf à lui avoir demandé préalablement. Les entreprises ne souhaitent pas forcément communiquer sur le fait qu'elles utilisent des managers de transition. Et nous... si vous voulez, par déontologie, comme vous allez voir un médecin, si vous voulez, parce qu'on a un petit peu ce rôle-là, vous ne souhaiteriez pas que votre médecin parle de la maladie de Madame Attel. Voilà. Donc, nous, c'est pareil. On est au cœur des entreprises. On est au cœur des problématiques des entreprises. Et donc, on est dans une relation de confidentialité totale, en général.
Ouais, cool, avec cette crise, mais tout le monde est déprimé, tout le monde s'inquiète, tout le monde s'angoisse, mais pas tout à fait tout le monde quand même, vous vous entendez, ce manager de transition, pour lui, ça va pas mal, hein. La destruction des emplois crée des emplois. Et des emplois qui sont pas mal du tout. Manager de transition ou consultant de restructuration, c'est pas mal. Une soirée, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Ah, moi, je suis consultant de restructuration. Ça vous pose une personnalité. Alors, il se trouve des mécontents, des aigris, comme on en entend dans certaines émissions de radio, pour appeler ça des coupeurs de tête, des mercenaires, du plan social, ça fait partie des dommages collatéraux. Les dernières études de la profession de manager de transition montrent que 30 à 60% des entreprises risquent de faire appel à un manager de transition en 2009-2010. Hein, c'est pas mal. De nombreux salariés vont donc voir arriver bientôt, cette année, dans les semaines ou mois qui viennent, un de ces affables cadres chargés de les foutre dehors. Ça coûte facilement de 1000 à 1500 euros la journée, les prestations de ces hommes et femmes-là. Alors, on avait fait un appel, vous vous souvenez, il y a quelques jours, parce qu'on voulait savoir qui sont ces nettoyeurs, ces licencieurs, ces managers de transition, comme vous voudrez. Ben, on ne peut pas dire qu'on ait eu beaucoup de succès, quelques vagues pistes, mais non. Il a fallu qu'on prenne notre bâton de pèlerin, notre micro de la basse, j'y suis, pour en rencontrer quelques-uns qui ont bien voulu nous répondre et nous expliquer comment ils font ce joli métier. C'est jusqu'à 16h. C'est la basse, j'y suis, manager de transition. Un bien chouette métier.
Vraiment, on trouve, on prouve. Je vous remercie. Vous l'avez bien
donc directeur général de Essensis France. J'ai découvert aux États-Unis le management de transition. C'était en 1984. Et j'ai décidé donc en 1988 de créer ma propre entreprise de management de transition en France, après avoir passé 8 ans aux États-Unis.
Si on prend le cas d'un plan social, est-ce que faire un plan social, c'est mieux rémunéré ?
Non, le cas du plan social, les plans sociaux sont souvent des missions d'expertise. Donc elles font partie des missions les mieux rémunérées, mais pas plus chères que les autres missions d'expertise. Je vais vous donner une fourchette très large, hein, puisque vous comprenez que le DRH d'une entreprise de 10 000 personnes n'a pas la même rémunération qu'une entreprise de 200 personnes. Mais grosso modo, ça va de 80 000 euros à 250 000 euros par an. Voilà, un bon petit boulot, manager de transition. Vous avez tout compris. Quand dans une entreprise, on doit la mort dans l'âme, on est obligé de se séparer de quelques salariés. On est d'abord très malheureux. Très malheureux. Les cadres et les dirigeants de l'entreprise ne dorment plus. Pour eux, c'est une vie d'enfer. C'est terrible. Et quand vraiment ils n'y arrivent pas, ils font appel à un manager de transition, à quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui fait le boulot à leur place et qui repart ensuite après avoir vidé l'entreprise, fait le boulot, quoi. Voilà. Mais y en a qui ça ne déplaît pas du tout. Là, la preuve, Bernard Tronel de Essensis, qui explique un petit peu en quoi consiste son joli métier. Le métier de management de transition et le métier que je fais aujourd'hui est un métier qui est absolument passionnant, hein, puisque on est au cœur de la problématique des entreprises. On se doit de leur trouver des solutions souvent extrêmement pointues dans des délais très rapides. Et pour moi, c'est un jeu. Et je vis de façon extrêmement heureuse et sympathique cette fonction. Hein. Bien sûr, la crise actuelle est très dure et se traduit par des licenciements. Mais malheureusement, on est dans une situation économique qui est difficile. Je pense que la crise, les vrais effets de la crise sur le plan industriel sont plutôt devant nous que derrière nous. Et je pense que malheureusement, on aura encore un certain nombre de plans de licenciement. Bah, il faut assumer, il faut dialoguer, il faut anticiper, il faut parler, il faut... Et c'est comme ça qu'on réglera les problèmes. Hein. Il y a clairement une augmentation de la demande. On est dans un marché qu'on estime à peu près en progression de 25 à 30% par an. Pour être concret, Essensis a progressé de 26% sur le premier trimestre 2009. Donc ça reflète très bien, si vous voulez, qu'il y a une demande de plus en plus importante. Encore une fois, parce que notre offre répond exactement à ce dont ont besoin les entreprises. Nos managers ne sont pas des mercenaires. Nos managers sont plutôt des chirurgiens ou des médecins. Soigner, c'est quand on nous demande de gérer du changement. Donc là, il est plus médecin dans la mesure où il va porter un diagnostic. Il va proposer des solutions et il va mettre en œuvre les solutions.
S'il intervient dans un plan social, les salariés prendraient mal le terme de médecin. Ils diraient non, il n'est pas en train de nous soigner.
Comme vous le savez, malheureusement, les chirurgiens sont amenés à amputer certaines personnes pour les guérir. On est dans cette problématique et il y a certaines opérations qui n'ont pas de conséquences à terme et puis il y en a d'autres qui ont des conséquences et parfois pour sauver des vies, on est obligé de procéder à des opérations chirurgicales lourdes
il vaut mieux vivre, après c'est des choix personnels, mais je pense qu'il vaut mieux vivre en chaise roulante que de passer des, voilà, que d'arrêter de vivre.
Bon, il vaut mieux vivre amputé des bras plutôt que de la tête.
Voilà.
Moi, c'est Christian. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h-7h02, je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit.
Je suis Luc Bramy, je fais de l'intérim management dans le cadre des restructurations et dans tous les aspects relations sociales, donc les négociations, ce genre de choses.
Vous avez quel âge ?
J'ai 43 ans. Alors en fait, j'ai absolument pas une formation de DRH, je suis ingénieur à la base. J'ai commencé par faire différents métiers pour en arriver finalement à faire du conseil, pour en arriver ensuite à tout ce qui était négociation. Petit à petit ensuite j'en suis arrivé à la restructuration et enfin le produit, j'irai fini à aujourd'hui, c'est donc de l'intérim management, du conseil et de l'intérim management sur tout ce qui est plan social. Généralement, quand on m'appelle, j'ai plutôt une spécificité plan social.
Voilà, une spécificité plan social, nous dit Luc Bramy. Voilà, des années qu'on vous présente des reportages avec des histoires de plans sociaux, comme on dit, c'est-à-dire de licenciement, de destruction d'emplois à travers tout le pays, mais on est toujours du même côté. On est toujours du côté des licenciés, des syndicats, parfois des élus locaux. Voilà, ça se limite à ça, du côté des victimes et du côté des impuissants. Mais on est rarement, ou même jamais, nous n'avons rencontré, nous n'avons pu rencontrer ceux qui mettent ces plans sociaux en application, c'est-à-dire ces directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, ou là, en l'occurrence, les managers de transition, c'est-à-dire ceux qui viennent faire le boulot à la place des autres qui n'ont pas envie de le faire ou qui sont impuissants à le faire ou qui n'ont pas forcément envie de regarder les gens qu'ils vont virer droit dans les yeux. Alors on a vu Gérard Tronel, directeur du cabinet 106. C'est un cabinet spécialisé dans le management de transition, donc ils ont en moyenne 120 missions par an, dont 10% concernent des plans sociaux. Et donc, ils envoient des cadres qui se mettent à la disposition des entreprises, des multinationales, des grandes entreprises. Et ces cadres occupent des postes de directeurs généraux, directeurs financiers ou directeurs de ressources humaines, le temps de faire le travail. Et maintenant, on est avec Luc Bramy, 43 ans, qui, lui, n'hésite pas à répondre aux questions des journalistes. Il est un des rares à répondre. Écoutez, moi, ça me dérange pas qu'on me colle l'étiquette de salopard sur le front tant que j'ai la fierté d'avoir bien fait mon métier. Il aime bien ça, son boulot de interim management. Et les plans sociaux, c'est des situations qui exigent du manager plus d'intuition que de réflexion. Et ça, c'est stimulant. Luc Bramy.
Ça fait combien d'années que vous le faites ?
Ça fait à peu près 5 ans.
En 5 ans ? Vous, à peu près combien de plans sociaux vous avez fait ?
En mission, j'en ai fait 3.
Ça représente à peu près combien de personnes qui ont été licenciées ?
Licenciement sec, ça en représente un peu moins de 1000. Maintenant, en termes de nombre de suppressions de postes, ça en représenterait de l'ordre de 2000-2500. Il y a un aspect légal des choses. Est-ce que vous pouvez faire une délocalisation ? Certainement. Il y a des juges qui ont jugé ça, ils ont gardé les arguments de l'entreprise, ils sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait le faire. Donc, il y a la possibilité légalement de le faire. Maintenant, est-ce que c'est moral ? C'est un autre sujet. De toute façon, c'est pas une question de moralité. La moralité ne se joue pas là, malheureusement. Alors, est-ce que ça se justifie de faire un plan social ? Moi, je n'ai pas créé le capitalisme, mais il me semble que le principe, c'est il y a d'un côté des actionnaires avec un capital qui doit ramener quelque chose, et puis de l'autre côté, il y a les salariés qui sont là normalement pour amener du travail, et il faut que ça ramène plus à l'actionnaire que ce qu'il paye de travail. Donc, à partir de là, si ce schéma n'existe plus, c'est qu'il y a un problème. Donc maintenant, si on veut, on revient sur tout le système pour que les gens vivent plus sereinement. Mais tel que le système est, le plan social, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme étant incontournable.
Vous vous rappelez le jour où vous avez appris que la scierie de Gandrange allait fermer ?
Bah, ouais.
Ça vous émeut encore, en fait ?
Ça vous dit.
Où est-ce que vous étiez, vous, à ce moment-là ?
Au cours des quotidiens. Je travaillais avec mon fils, et puis...
Là-bas, si j'y suis, 28 avril 2009, à Gondrange.
Vous n'avez plus de voix.
Plus de bouche.
Parce qu'on pense que ça fait un an et que du coup, l'eau a coulé sous les ponts et que pour vous, vous êtes passé à autre chose, mais pas du tout, en fait.
Non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. On est tous, là, en ce moment, on est tous sur les nerfs. Bientôt, les seuls qui vont faire de l'argent, c'est les pharmacies. Parce qu'on est tous sous trentaine, on est tous sous calmant, tout le monde est énervé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus de quoi parler. Et on se regarde, on se demande où on va aboutir, là.
C'est un choix stratégique. De la même façon que vous faites un investissement pour vous lancer dans un nouveau business, vous faites un autre investissement. C'est un investissement, faut pas se le cacher. Vous faites un investissement qui va vous amener à être avec tant de personnes en moins, dans une autre configuration, avec peut-être des coûts moindres. Vous allez peut-être vous trouver mieux placé auprès de vos clients pour pouvoir vendre, et puis j'en sais rien. Donc, c'est véritablement, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise, quoi. Vous ne le lancez pas sans le faire relire par un avocat. vous avez un avocat en droit social qui est présent à vos côtés. De la même façon, vous avez un budget sur le sujet, vous avez un contrôleur de gestion qui est à vos côtés pour contrôler que vous avez pris les bonnes provisions, que les coûts sont impactés correctement, etc. Enfin, il y a, grosso modo, c'est comme un projet d'investissement et vous êtes guère que le chef de projet.
Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes intéressé? Ah, ça vous plairait, ça, ce métier de manager de transition. Alors, seulement, il faut que vous imaginiez, vous pensiez comment appliquer le plan de sauvegarde de l'emploi. Ne dites pas licenciement, ne dites pas je suis le mercenaire des actionnaires, ne dites pas je vais nettoyer cette boîte. Vous dites plan de sauvegarde de l'emploi, mode d'emploi.
Dans le cadre d'une restructuration avec des suppressions de postes, il y a ce qu'on appelle, ce que la loi appelle, le plan de sauvegarde de l'emploi, le plan social.
On ne dit pas licenciement dans la loi.
On doit en parler, mais la loi, elle dit simplement qu'il y a deux aspects qu'il faut traiter. Il faut expliquer la réorganisation et il faut expliquer comment on va atténuer l'impact sur l'emploi. C'est-à-dire que quand on fait des suppressions de postes, grosso modo, vous supprimez un poste d'opérateur, vous pouvez en avoir 100 dans une usine, et puis après, vous avez des gens. Dans cette partie-là, on parle des gens. Donc, les postes d'opérateurs, ils peuvent être occupés par des intérimaires. Il peut y avoir des gens qui ont des CDI dessus, des CDD, enfin. Le plan de sauvegarde de l'emploi, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre ces postes et ces gens. C'est généralement ça qu'on voit apparaître dans la presse, c'est tant de suppression de postes, tant de licenciements secs. Donc c'est comment à la fin on va avoir géré ce problème. Par exemple, dernièrement, je crois que Air France a annoncé des suppressions de postes, mais a indiqué qu'il n'y aurait aucun licenciement sec. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont faire partir peut-être les intérimaires. Ensuite de ça, ils vont pas reconduire les CDD. Ensuite de ça, ils vont proposer peut-être des formations aux gens. Ils vont regarder les gens qui vont partir à la retraite. Est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être anticiper un peu la retraite? Donc c'est ce qu'on appelle la pré-retraite. Ça fait partie des populations pour lesquelles on essaie d'amener une solution. Vous pouvez faire partir toutes sortes de personnes. Normalement, une entreprise qui fonctionne correctement sur la gestion des ressources humaines, elle n'a pas à garder, entre guillemets, des canards boiteux. Il y a différents cas. Il y a des gens qui ont des maladies. Il faut voir si la maladie a été traitée en termes d'handicap. Est-ce que ça correspond à un handicap? Et dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne font plus le boulot depuis longtemps. Enfin, il faut essayer de traiter le problème qui fait plus le boulot. Enfin, il faut traiter ces situations-là. Ils vont aussi voir qui est-ce qui veut être volontaire. Et on va offrir en effet un certain nombre de moyens, d'incitations pour que les gens partent.
Moi, je suis rentré à 17 ans dans cette entreprise. Quand je suis rentré, que j'avais 17 ans et demi, ils m'ont dit, tu rentres dans une grande famille,
Gérard.
On va s'occuper de toi, on va te protéger jusqu'à ta retraite. Et puis là, je vois qu'ils me lâchent.
Là-bas, si j'y suis, 30 avril 2009, à Grenoble.
Là, c'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent. C'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent. Carrément. Voilà. On me dit, bon ben, t'as 50 ans, c'est fini, maintenant tu dégages. Tu dégages, on ne veut plus. Voilà. C'est comme ça que je le prends, donc je leur en veux. Par rapport à l'éthique Caterpillar, moi j'ai conditionné toute ma vie autour de Caterpillar. J'ai travaillé les heures supplémentaires, les horaires, la flexibilité, dans tous les domaines. Et puis maintenant, j'arrive à 50 ans, je fais quoi? C'est une famille qui me lâche complètement.
Et vous avez des lunettes en verre fumé? C'est parce que vous êtes fatigué de la lumière du jour à force de travailler de nuit?
La nuit, ça tue. Je vous parle pas de mes poignets, je vous parle pas des coudes. J'ai pas ça pour rien.
Ça, c'est des gants, c'est des mitaines. Je croyais que vous étiez motard avec ça.
J'ai deux métacarpiens qui sont cassés ici. Et le fait de porter des gants avec du gel ici, ça me maintient les métacarpiens et ça m'empêche l'opération dans pas longtemps. J'ai été usé dans cette entreprise. Usé à petit feu. Et je vais me débrouiller comment? Le chômage, ou RMI, à la casse, ils me mettent à la casse.
Vous, votre premier plan social, comment ça s'est passé?
En fait, je suis arrivé dans l'entreprise pour aider la direction dans ses aspects communication, l'aider à faire la négociation. Enfin, j'étais là vraiment comme conseil.
Et est-ce qu'on peut nommer cette entreprise ou pas?
Alors, je pense que ça présente assez peu d'intérêt. Bon, c'est une entreprise dans les semi-conducteurs. L'entreprise voulait fermer une usine dans la Bretagne. Voilà. Le DRH lui-même l'a assez mal vécu. Il était, déjà très affecté par la rupture du dialogue qui existait. Enfin, il a dû être arrêté. Il a été malade.
Et donc c'est vous qui avez pris sa place?
J'étais arrivé là tout à fait sur le principe du consultant. Et j'aurais jamais pensé que je deviendrais DRH. Et au demeurant, j'avais pas du tout la formation pour le faire.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 38 ans. Et donc la procédure s'est quasiment uniquement passée sous l'angle un peu juridique. C'est-à-dire que pour convoquer un CE, il fallait faire un référé. Pour arriver à discuter, il fallait quasiment venir avec un huissier. Enfin, c'est pas des conditions de dialogue particulièrement agréables. Le dialogue s'était tellement radicalisé que tout le monde était en grève. La gestion courante, elle se réduisait à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, vous avez personne qui produit. C'est une situation qui est assez terrible pour tout le monde parce que ça vous focalise complètement sur le seul sujet qui est la fermeture, la restructuration. Je peux vous dire en tout cas que le jour où il y a une grève, ils ne parlent plus que de ça. Donc c'est vrai que là, vous avez des gens qui vivent encore plus mal cette situation. Et en fait, on est resté avec des gens qui pendant... donc moi, je suis arrivé en janvier et en juin, il s'est terminé. Donc c'est-à-dire qu'on a fait les licenciements en juin. Si vous voulez, pendant ces 6 mois-là, ils ont quasiment pas travaillé. Ils étaient quasiment tous en grève, sachant qu'ils étaient payés. Je dirais que c'est pas un plan que je qualifierais de réussi. Ça a donné lieu à énormément de procédures juridiques qui, au demeurant, ont été gagnées par l'entreprise. Mais ça, c'est pas le fond du sujet, c'est que les gens, en fait, sont restés dans le conflit pendant des années et des années, et que c'est pas le climat le plus opportun pour arriver à se retrouver un emploi.
quand on se sent encore dans son passé, dans une situation d'obtenir gain de cause, bah, on peut pas avoir un comportement, je dirais, tranquille face à son nouvel employeur. Le reclassement a été très difficile. C'était la seule usine de semi-conducteurs de la région. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de retrouver un emploi, je dirais, dans le même domaine d'activité. C'était une usine qui avait recruté à la fois le père, la fille, le maire, il n'était pas rare de voir deux, trois, voire quatre personnes qui, de la même famille, dans l'usine. Quand vous avez quatre personnes dans la même famille qui sont touchées par les licenciements, ça devient en effet très difficile. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans cette activité, qui sont des gens très bien. Il y a tous les cabinets de reclassement, c'est-à-dire tous les gens qui sont là pour essayer de trouver un nouvel emploi, aller chercher des emplois, aider les gens à passer le cap. Souvent, le plan social, c'est des gens qui ont une certaine ancienneté et qui ont, certaines fois, jamais envisagé d'aller rechercher un autre boulot ailleurs. Donc, en particulier, quand on est dans une fermeture, on sait que c'est l'ensemble des cas qu'on va devoir traiter. Je veux dire, le pire des cas, généralement, le cas qui est vraiment le plus compliqué, c'est quelqu'un qui est alcoolique. Ah ben, dans un plan, il y a toujours une ou deux personnes qui est alcoolique. Généralement, la personne est devenue d'autant plus alcoolique à cause du plan et de la situation qu'il a eu à vivre. On peut pas le nier. Mais maintenant, il faut essayer de le ramener dans une situation où il va se retrouver en confort. Je vous dis pas que c'est facile. C'est pour ça que je vous dis que il y a tout un ensemble de professionnels qui interviennent sur un plan social. Il y a des gens qui font du reclassement. C'est un domaine compliqué où il faut avoir beaucoup d'empathie, où il faut avoir, faut pas abuser, mais il faut savoir le faire un petit peu. Et ça, c'est un vrai boulot. Et pour être clair, c'est pas un boulot que moi je fais. Hein. C'est très difficile de quitter une entreprise, c'est très difficile de faire la rupture. La rupture, elle est portée par les personnes comme moi. C'est-à-dire que moi, je les amène jusqu'au moment où ils ont leurs lettres, ils ont un entretien ou pas, enfin, ils ont un certain nombre de choses. Et après, il faut que je les mette entre les mains de la personne qui va les reclasser. Et cette personne-là, moi, je vais le pousser pour qu'il traite avec dynamisme la situation de façon à ce que les gens soient reclassés.
D'accord, vous les amenez au bord de la falaise.
Exactement.
Sinon, elle perdra des parts de marché.
Tu vois, pourquoi elle est
pas payé au pourcentage. Généralement, c'est de la prestation. On est payé à la journée, on est payé par contrat, enfin...
Vous êtes payé combien?
Ben, ça varie entre 1000 et 1500 euros.
Par jour?
Par jour.
Net ou brut?
C'est des honoraires, c'est-à-dire que c'est grosso modo un montant à la journée qui correspond à des honoraires comme des honoraires de conseil.
Combien de temps ça dure à peu près en moyenne une restructuration ou un plan social?
La partie procédure, donc par rapport à l'annonce, on a à peu près de l'ordre de 6 mois. Entre 3 et 6 mois pour faire tout ce qui est discussion, négociation du plan social. Donc une fois qu'on a terminé ça, dans la plupart des cas, on est dans un timing où il faut entre 1 et 2 mois pour déclencher les licenciements. Et ensuite de ça, il y a généralement entre 6 et 9 mois pour le reclassement. Donc tout cumulé, on est sur une base de 1 an à 1 an et demi.
Et quand vous voyez certains DRH réaliser qu'ils peuvent pas le faire parce qu'ils se disent non, là, il y a par exemple, c'est une famille, là, ils ont des crédits, si je les mets au chômage, c'est la fin de tout.
Ben, le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut pas faire la restructuration. Si vous projetez votre culpabilité sur les gens qui vont être touchés par cette restructuration, l'effet que vous donnez est terrifiant. Moi, je critique pas, hein, c'est juste que c'est pas à faire. Il faut voir que normalement, un DRH, il doit gérer en étant capable d'être équitable. Et équitable, ça veut dire que il faut pas non plus qu'il s'attache aux personnes. Un DRH qui dit j'aime bien ce type-là et qui a une attitude qui va dans ce sens-là, c'est un risque. Ça reste quand même une situation qu'une entreprise n'a pas véritablement envie de vivre. Et tous les DRH, dans des groupes très restructurés ou qui passent leur temps à restructurer, petit à petit ils s'usent et ils se fatiguent de la situation. Il y en a beaucoup qui disent je vais aller dans un groupe où il n'y a plus de restructuration. Bon, là avec la crise, c'est plus difficile de trouver.
Mais alors c'est quoi qui vous plaît, vous? Puisque vous êtes missionné pour ça, alors.
C'est une situation qui est relativement difficile à gérer, donc il y a une vraie tension, il y a une vraie difficulté, et on a la satisfaction du travail à l'arrivée bien fait. Sachant qu'au début, c'est la pilule amère, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez là-dedans, vous êtes souvent énormément maltraité, vous avez quand même un certain temps où vous êtes le paria de la société, et c'est vrai que c'est assez difficile de rentrer dans ce genre de climat. Mais bon, si vous avez pas le besoin que tout le monde, quand il vous voit, vous dise « je vous aime », ça peut se passer assez bien. Enfin, c'est difficile de savoir se dire la notion un peu de mission, de mercenaire, doit être critiquée ou pas dans ce cas-là, quoi.
Vous acceptez ce terme de mercenaire ?
Le mercenaire, oui. À condition de pas trop galvauder le terme et en considérant que il y a un point qui est essentiel, c'est que moi j'obéis. C'est-à-dire que moi ce que je cherche à faire, si on m'a demandé de venir pour faire un plan, j'obéis. Beaucoup de gens m'interpellent en me disant vous vous sentez pas mal de faire ça. Et vous devriez vous arrêter immédiatement si vous aviez un peu de confiance. C'est pas exact. C'est une situation où une fois que vous êtes engagé dedans, il faut aller jusqu'au bout. Écoutez, on a forcément des états d'âme. Maintenant, au-delà de ça, faut les avoir à bon escient. Vous êtes pas le sauveur. Vous êtes pas un héros. Vous êtes juste la personne qui fait un métier difficile, mais si vous l'amenez bien à son terme, vous aurez la satisfaction de ce que vous faites.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissant de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession.
Je suis donc le directeur général du groupe Sermo. Donc j'ai fait d'abord une école de commerce et puis ensuite j'ai été plutôt dans les fonctions financières, contrôleur de gestion, puis directeur financier. Et en 97, j'ai pris un poste de direction générale chez Valeo, donc de 97 à 2000. Et depuis 2000, donc, je suis directeur général de la société Sermo.
Alors, je vais vous laisser peut-être reprendre votre Perrier.
Merci. Voilà, Didier Crespel, 47 ans, manager de transition après Luc Bramy, après Gérard Tronel aujourd'hui. Ces messieurs, parfois sont des dames aussi, bien sûr, qui foncent. Tâche de, vous avez compris, restructuration et tous ces euphémismes, plans sociaux, etc. Un travail, un domaine en pleine extension. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, on dénonçait
La dictature du prolétariat, aujourd'hui, on s'accomme très bien de la dictature de l'actionnariat, parce que la cause de ces destructions massives d'emplois, elle est là, pas ailleurs, dans l'exigence des actionnaires et des groupes d'actionnaires qui exigent des rendements de 15%. Tout est dû à cette avidité monstrueuse qui exige des rendements à très court terme. Ce qui fait qu'on ne peut pas investir dans une entreprise, mettons une entreprise qui se lancerait dans la recherche pharmaceutique pour trouver une solution. Et imaginons au paludisme, par exemple, il est bien possible qu'on fasse des recherches. Eh bien, c'est des recherches peut-être pas suffisamment rentables et sans doute pas forcément à court terme. Donc, on poussera l'entreprise de produits pharmaceutiques à aller sur des produits concernant l'obésité, par exemple. Là, c'est la mode aujourd'hui, et parce que ça, c'est rentable, ça concerne les pays riches, et surtout, ça satisfait l'avidité des actionnaires. Alors, il arrive aussi, bien sûr, on l'a vu à nombreuses reprises, que le salarié soit l'actionnaire aussi, que les salariés soient actionnaires aussi, et que l'exigence du principe d'actionnariat fasse que le salarié se trouve licencié par lui-même, puisque il est actionnaire aussi. C'est un paradoxe et une schizophrénie tout à fait stupéfiante de notre époque. C'est un trait de notre temps. Didier Crespel, donc, lui, comment s'y prend-il pour faire ce joli métier ?
Il était d'abord directeur financier chez Valeo à partir de 1993. Je suis devenu directeur général en 97. Ouais, du côté de chez Valeo, en fait, les divisions, enfin ce qu'on appelle chez Valeo une division, c'est-à-dire un centre de profit, je dirais une usine, la stratégie est quand même largement décidée au niveau du groupe. La bourse a bien sûr exigé des rendements court terme extrêmement importants sur les entreprises. Les actionnaires sont devenus opaques au sens où on ne connaît plus les actionnaires pour lesquels on travaille finalement, qui viennent avec des exigences de rentabilité qui ne permettent plus d'avoir un raisonnement un peu plus long terme, donc un peu plus projet. Hein. Donc on est sur du capitalisme qui va exiger des rentabilités fortes à court terme, et donc qui va ainsi changer complètement le rythme et puis le mode de management aussi des entreprises. À ce moment-là, le salarié devient effectivement une variable. Hein, et il y a eu beaucoup de délocalisations qui se sont structurées de cette manière-là. Donc les délocalisations étaient des accélérateurs de rentabilité pour les grandes entreprises. À l'époque, en ce qui me concerne, je m'occupais de sociétés en Allemagne. Donc on a transféré une partie de notre production d'Allemagne en République tchèque.
Combien de salariés allemands ont été licenciés ?
À l'époque, c'était 300 à peu près, 300-400. On est dans le cadre d'un plan social, quoi. En général, ça se décide de commune mesure avec les actionnaires du groupe, parce que c'est un plan en général lourd, hein, qui demande des financements. Et donc, on a donc effectivement des discussions sur le montant, en fait, du plan social, l'économie générée par ce plan social, et voir l'un avec l'autre si c'est une opération qui a du sens ou pas.
Moi, je suis syndiqué depuis 1974.
Marie-Hélène.
Nous, si on a envie d'être en colère, on y se pense, parce que quand Sarkozy dit qu'il va s'occuper des petites gens, et puis qu'il est parti en vacances sur un yacht ou combien ça coûte par jour. Et c'est lui qui va nous donner des leçons? Ah bah non alors.
Là-bas, si j'y suis, 29 mai 2007, avec les ouvrières de CCE.
Et c'est lui qui va s'occuper du monde ouvrier? Mais on se fout de qui, là? Il y a un cul au monstre, hein? Alors que mai 68, pour lui, il faut l'effacer. Mais justement, mai 68, c'est d'actualité aujourd'hui. Parce que si tout le monde y serait dans la rue et qui montrait la colère, que ça suffit maintenant de s'occuper que des financiers, il faut s'occuper aussi des chômeurs.
Ah, c'est comme il dit, Sarkozy, derrière un chômeur, il y a un feignant. Bah, qu'on nous laisse notre outil de travail, pourquoi qu'on nous l'enlève? S'il est si malin, qu'il nous laisse notre usine. Ça, j'ai pas aimé, ça. J'ai pas apprécié du tout, hein. Derrière un chômeur, il y a un feignant, mais les gens n'ont plus de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Je suis sûr qu'ici, il y a des enfants comme moi, mon fils qui a 22 ans, il galère, hein. Il est soudeur, mais c'est une semaine par-ci, une semaine par-là. Il n'y a jamais un CDI, c'est toujours de l'intérim. Et il vivrait pas sous notre toit, qu'est-ce qu'il ferait? Moi, si il n'habiterait pas à la maison, eh ben, ça serait un SDF. Bah oui. Ça serait un SDF. Et ça, je ne sais pas si les 440 y voient tout ça. Hein. Donc, à venir chez nous, on va leur montrer. Mais ils viendront pas.
Combien de plans sociaux vous avez dû faire?
En tout? Beaucoup. Je sais pas, plus ou moins important, mais 7-8, quoi. Oui, c'est beaucoup.
En combien d'années? Vous savez à peu près combien de personnes ça représentait?
C'est 800-900 personnes. Et c'est beaucoup.
Comment vous l'avez vécu, ce moment?
Bah, c'est pas des moments faciles au sens où on parle de départ, on parle de gens qui vont avoir une rupture. Et donc c'est un climat potentiel de tensions fortes et de difficultés, quoi. Donc il faut aborder, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'aborder les choses de manière calme, de manière exposée, de ne pas partir dans un espèce de conflit, de confrontation. C'est des phases complexes, quoi. Et, bon, il y a une difficulté technique, ou je vais dire professionnelle, de mener des négociations. Et puis derrière, j'ai quand même une certaine empathie, si vous voulez, avec ce que vous êtes en train de faire.
Et est-ce que, à un moment donné, vous auriez pu ne pas l'appliquer, ce plan social? Est-ce que vous auriez pu refuser? Est-ce que vous aviez eu envie
non,
de...
Non, enfin bon, soit on fait le jeu, on va dire, et puis on fait, quoi. Soit on fait pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une histoire de rentrer en résistance. Je pense que l'entreprise, c'est pas un lieu où on rentre en résistance. Il y a d'autres vecteurs. Si on assume plus son rôle de directeur général avec ce type de contraintes, il y a une autre façon de s'exprimer que de rester dans l'entreprise à mener son combat, quoi. Je pense que c'est incompatible.
Et pourquoi c'est incompatible?
Parce qu'on est payé, on a un job pour remplir un certain nombre de fonctions, et si on n'est pas d'accord avec cette fonction, il faut sortir l'entreprise et puis faire autre chose. En tant que dirigeant et entreprise, on n'a pas, à mon sens en tout cas, ce droit.
C'est un droit, et pourquoi vous le prenez pas, ce droit?
Enfin, on a une mission, et soit on la remplit avec meilleure volonté du monde, ou soit on sort d'entreprise et puis on fait autre chose, si on n'accepte pas les règles du jeu.
Et votre rémunération chez Valeo était de combien à peu près, en tant que directeur général?
Ça, je le dirais pas.
Pourquoi? Bah non, mais pour qu'on ait un...
Non, mais parce que d'abord, hein, je m'en souviens pas, et puis bon, c'est quand même...
Comment ne pas se souvenir de... Bah, un salarié, moi, bah, à chaque fois, quand je demande un salaire, on me le donne.
Non, mais non, ça, je rentre pas dans cette discussion-là, parce que, si vous voulez, c'est cloué au pilori les patrons qui gagnent trop par rapport aux salariés. Donc, si vous voulez, si vous mettez un chiffre dans la nature et que... Je ne pense pas que ça contribue effectivement à améliorer l'image des patrons d'une façon ou d'une autre. Donc,
pour essayer d'avoir un ordre d'idée, c'est logique. C'est pas du tout pour vous mettre au pilori, c'est pour essayer de comprendre.
Oui, mais bon, non. Non.
Pour revenir, par exemple, sur Valeo et le plan social que vous avez fait, quand vous dites « j'étais un bon petit soldat », c'est que quand on a un bon petit soldat, on se pose, on essaye de...
On se pose pas de questions, enfin, je parle pas au niveau de la morale ou de quoi que ce soit, mais enfin, je veux dire, on exécute, quoi. C'est pas, y a pas plus de réflexion que ça, quoi. Le jugement moral n'intervient pas dans cette sphère-là, mais enfin, quand je dis bon soldat, c'est d'adhérer au projet de l'actionnaire tel qu'il est. C'est-à-dire ne pas tenter autre chose, ne pas essayer de développer d'autres secteurs ou des choses comme ça. Donc,
il y a des choses que vous avez regrettées, Valeo, que vous vous dites j'aurais
oui,
pu
enfin,
peut-être.
Chez Valeo. Oui, il y a un certain nombre de choses quand même que j'ai déplorées, hein, notamment des développements qu'on avait prévus et qu'on n'a pas fait, mais plus dans la stratégie générale, si vous voulez, que dans le plan social en particulier.
Dans le plan social, vous ne pensez pas que vous auriez pu soit le minimiser, soit l'éviter?
Voilà, non, je ne pense pas que c'était... Enfin, on aurait pu peut-être un peu l'atténuer, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a finalement fait, quoi.
Est-ce qu'il était légitime?
Ben, je pense que c'est un plan social légitime. Il était légal, en tout cas. Maintenant, l'État n'intervient plus dans les plans sociaux. Donc l'État intervient médiatiquement dans les plans sociaux, mais n'a pas de moyens d'action sur les plans sociaux véritablement, sauf des moyens de pression sur les entreprises, mais n'a pas de moyens. Enfin, l'État ne peut rien faire, en fait. C'est une affaire privée entre des salariés et puis une entreprise. Donc l'État peut orienter, peut animer, peut tenter de prendre des mesures pour relancer l'économie, relancer l'investissement, mais n'a pas de pouvoir.
De ce que vous m'expliquez, c'est-à-dire soit on accepte la mission, soit on l'accepte pas, est-ce que forcément les raisons économiques contribuent à faire en sorte qu'on accepte de remplir le...
Non, c'est pas... Enfin, la valeur économique n'est pas la seule raison qui vous font accepter ou pas une mission. C'est au départ... des ambitions personnelles, quoi. Là, une carrière, quoi. C'est-à-dire qu'on accepte de passer par un certain nombre d'étapes qui font qu'on a envie d'accéder à l'étage supérieur, et pour accéder à l'étage supérieur, on accepte finalement d'être un bon soldat, quoi.
Alors,
un peu moins petit soldat que je n'étais il y a 10 ans, quoi. Voilà.
Vous êtes un peu moins petit soldat?
Oui.
Il y a 10 ans, si je vous avais vu, j'aurais rencontré quelqu'un de vraiment...
Un peu plus petit soldat, oui. Bah, c'est-à-dire un peu plus aux ordres de sa hiérarchie, de son actionnaire et de son... Enfin oui, des gens qui lui avaient rendu compte.
Ah,
C'était un reportage de Pascal Pascariello, première diffusion le 6 mai 2009. Merci à Gérard Tronel, Luc Bramy et Didier Crespel, mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission La Bassi, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Amandine Grévoz et Dimitri Gronoff. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assisté d'Agnès Lebot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
Là-bas, j'y suis. Là-bas, j'y suis. Là-bas, j'y suis.
Ah, ah, mon frère Malamine. Quand tu joues comme ça, je pense que tu es au pays. Je pense au cadeau empoisonné qu'on m'a donné en France. Tu sais, quand tu arrives dans un pays, il faut savoir là où tu vas mettre le pied. Tu sais, on dit bien chez nous, la terre tourne. Si tu mets le pied n'importe comment, tu vas aller tomber dans un sable bouvant. Le sable bouvant que des Français disent, quand tu rentres là-dedans la main. Tu commences à se descendre comme un... Tu connais le truc, l'ascenseur qui est dans le sixième étage ou bien quoi, ça descend seul. C'est le sable mouvant, ça descend aussi comme ça. Je te dis, on m'a donné un cadeau empoisonné, une voiture qui n'a pas de pneus, qui n'a pas de roues, qui n'a pas de pare-brise, qui n'a pas de rétroviseur, mais je vais rouler comment? Bilbo, Bilbo, tu m'as donné cadeau, cadeau empoisonné, tu m'as donné voiture, voiture qui n'a pas de roue, voiture qui n'a pas de rétroviseur, voiture qui n'a pas de rappel à la maison, je vais rouler comme un haut. Yeah, 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 Bilbo, maman, 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 cadeau empoisonné, cadeau empoisonné, cadeau empoisonné. Okoye bisanga e Bilbo, papa sinya soya makili. Tu m'as donné une télé. Télé qui ne marche pas, oh. La première chaîne ne marche pas, oh. La deuxième ne marche pas, oh. Ah. Mais ça c'est le problème. Tu me donnes un télé, ça ne marche pas. Je mets comme ça. Je vois seulement l'écran qui devient tout blanc. C'est comme les abeilles qui sont dans des... Je sais si c'est quoi là. Mais j'ai marché, marché, j'ai dit ma femme commence à dire. Ah mon frère. Ça c'est. Ça c'est un cadeau empoisonné que le monsieur vient de te donner.
Cadeau empoisonné.
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 Cadeau empoisonné. Il m'a donné un voiture. Voiture qui ne marche pas. Voiture qui ne roule pas. Il n'y a plus de parapluie, il n'y a plus de rétroviseur, la télé qui ne marche pas. Oh. Et à ma mère, yélé,
yélé.
Cadeau empoisonné.
Cadeau empoisonné.
Cadeau empoisonné.
Cadeau empoisonné.
Pour faire son malin. Je t'ai dit, il vient te dire, il t'appelle. Moi j'ai une voiture. Quelle voiture même?
La vie. Mais tout est cassé.
Ah, on va se moquer de lui.
Je t'ai dit. Mon mari l'a vraiment lui aussi.
Aïe, aïe.
Ah, dis donc. Ah, c'est pas bien. L'affaire là est mauvaise, mauvaise vraiment.
Laisse-moi ça. Ah, laisse-moi ça.
Petit cahier. Laisse-le même d'abord.
Tu n'as qu'à rouler en métro. Tu prends une voiture. C'est un cadeau empoisonné.
Oh non, 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 non.
Ah, ça, mais le monsieur là, il m'a rendu mauvais service de la vie, hein.
Achille, Julie, Sonia,
Jacques,
Christelle. Christelle ne jure que par le sur-mesure. Tout doit s'adapter à elle et pas l'inverse. Du coup, elle tricote des bonnets, des écharpes, des pulls, juste pour elle, juste pour être belle. Et pour sa santé, c'est pareil. Christelle veut du sur-mesure.
C'est parce que l'assurance maladie vous connaît bien qu'elle a mis en place Amélie Direct, le service qui vous permet de choisir les professionnels et établissements de santé adaptés à vos besoins. Pour trouver leurs adresses et tarifs, consultez le service Amélie Direct sur amélie.fr. A-M-E-L-I.
L'assurance maladie.
À suivre après les informations, le carrefour de l'Odéon. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Vous retrouvez Arnaud Poulard pour les informations. Bonjour.
Bonjour, et on commence avec cette bonne nouvelle. Les deux Françaises détenues depuis l'année dernière en République dominicaine viennent de sortir de prison. Les deux jeunes filles qui avaient été condamnées à 8 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue ont été graciées par le président dominicain la semaine dernière. Les précisions sur place à Saint-Domingue de Jacques Plana. Céline et Sarah ont retrouvé l'air libre ce matin peu après 10h30 heure locale, 17h30 hors de Paris. Après quelques formalités administratives, elles sont ressorties de la prison pour femmes de Santiago, la deuxième ville du pays, accompagnées par le procureur général de la République, l'équivalent chez nous du ministre de la Justice et du secrétaire d'État français à la coopération. Direction l'héliport, puis la capitale où elles seront accueillies à l'ambassade de France en attendant leur départ vers Paris dans la soirée sur un vol régulier. Elles arriveront dans la capitale française demain matin avant de rejoindre Besançon où elles vont pouvoir passer le réveillon en famille après 18 mois de détention dans les prisons dominicaines. Saint-Domingue, Jacques Plana, France Inter.
En Iran, les partisans du régime ont manifesté à leur tour aujourd'hui partout dans le pays. Ils ont notamment réclamé des sanctions contre les responsables de l'opposition, des responsables coupables selon eux de provoquer des troubles après la réélection de Mahmoud Ahmadinejad en juin dernier. Le président iranien qui, par ailleurs, a déclaré que les manifestations anti-gouvernementales de dimanche étaient planifiées par les sionistes et les Américains.
Je vous rappelle que ce sont les forces de l'ordre iraniennes qui ont tiré sur des opposants au régime. Le bilan fait état de 8 morts. Plusieurs proches des leaders d'opposition ont également été arrêtés. À Londres, l'ambassadrice chinoise a été convoquée par le ministère des Affaires étrangères britannique. Elle devra certainement justifier l'exécution d'un ressortissant britannique ce matin en Chine. Cet homme de 53 ans, malade mental selon sa famille, a été condamné à mort pour trafic de drogue. Gordon Brown, le premier ministre britannique, a évidemment condamné cette exécution. Il s'est dit consterné et scandalisé. Plus 0,3%, le PIB a de nouveau augmenté en France pour le deuxième trimestre consécutif. À noter également que le pouvoir d'achat des Français a également augmenté de 0,6% au troisième trimestre. L'actualité, c'est aussi ce braquage expéditif, vite fait, bien fait. Ce matin, un homme a dévalisé une bijouterie du 14e arrondissement de Paris. Il a tiré un seul coup de feu. Il n'a pas fait de blessés et il est reparti à scooter avec un joli butin estimé à près de 100 000 euros. Enfin, on termine avec une bonne nouvelle pour les fêtards. Les discothèques pourront désormais rester ouvertes jusqu'à 7h du matin. Un arrêté en ce sens vient d'être publié au journal officiel. Jusqu'à maintenant, les horaires de fermeture variaient d'un département à l'autre, avec parfois des écarts importants.
Jeudi soir, à partir de 20h20,
les électrons libres sur leur 31.
Didier Varro,
bilan musical de l'année 2009, prévision 2010, interview exclusive, DJ set et à quelques heures des 12 coups de minuit, les artistes vous feront partager leurs préparatifs de réveillon ou vous diront pourquoi ils écoutent France Inter le 31 décembre.
Les électrons libres sur leur 31.
C'est encore l'heure de vivre 2009. C'est déjà l'heure de se souhaiter une bonne année 2010.
Une soirée de réveillon exceptionnelle présentée par Didier Varro, jeudi à partir de 20h20. France Inter. La différence.
16h03 sur France Inter. Place au carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonsoir.
Bonjour Arnaud.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose de feuilleter le nouveau diapason, celui de 2010 mais qui est déjà paru, alors en couverture Chopin, bien sûr ce sera l'année Chopin, en 2010 et il y aura une folle journée, enfin elle est tellement folle qu'elle dure plusieurs jours à Nantes et nous y serons le dernier vendredi du mois de janvier d'ailleurs pour le Carrefour et puis aussi pour la retransmission d'un concert Chopin avec Boris Berezovsky. Et dans le diapason de ce mois qui vient, il y a donc un article, comme chaque fois, de Claude Samuel, qui fut directeur de la musique à Radio France et directeur de France Musique aussi, sur la mort de Diaghilev, le fameux impresario, le patron des ballets russes. Et c'est vrai que c'est le 100e anniversaire de la naissance des ballets russes, qui ont débuté en 1909. C'est aussi le 80e anniversaire, enfin l'année d'anniversaire, de la mort du fondateur Serge Diaghilev ou Sergueï de Diaghilev ou Sergueï Diaghilev, comme vous voudrez. En tout cas, c'est un personnage extraordinaire, mi-fou, mi-escroc, très artiste en tout cas, mais quelqu'un qui a réussi à faire bouger la danse, à faire bouger la musique aussi. Lors de sa première à Paris, il a laissé sur le carreau ses financiers, il a laissé les gens qu'il avait aidés, 80 1000 francs de déficit pour le coproducteur, et puis la poudre d'escampette pour son associé Diaghilev, qui a filé en laissant bagages et dettes à l'hôtel. Eh oui, un feu d'artifice un peu dangereux à manipuler, bien sûr, mais enfin quelqu'un d'extraordinaire, et sans lui, le 20e siècle musical n'aurait pas été le même. Un de ses amis, malgré toutes les créations de Diaghilev, lui avait signalé que la routine parfois était mauvaise conseillère. C'est Léon Bakst, qui était un peintre magnifique, qui lui a fait beaucoup de décors, qui lui a écrit, après une représentation de La Belle au Bois Dormant à Paris, en 1922, « Continue comme ça et tu n'auras plus un chien à tes spectacles. C'est comme ça que tu penses exciter la curiosité. » Signé Ton Léon, quand même. Alors bon, c'est vrai qu'il écoutait assez peu les conseils, mais il a fait tellement de nouveautés, Diaghilev, qu'on lui pardonne aisément à lui, tellement russe, d'avoir aimé La Belle au Bois Dormant de Tchaïkovski, dont voici l'introduction. Introduction du ballet La Belle au Bois dormant de Tchaïkovski, interprété par le New Philharmonia Orchestra, dirigé par le légendaire Léopold Stokowski. Alors c'était bien injuste de reprocher à Diaghilev d'être un peu plan-plan, de donner toujours la même chose, parce que c'est quand même lui qui a créé le scandale du sacre de Stravinsky, le sacre du printemps. Et vous savez que demain, vous avez peut-être vu sur les affiches, il y a un film qui sort sur l'idylle supposée de Coco Chanel et de Stravinsky, Coco et Igor. Donc, alors, il est tout à fait d'actualité. Mais ça a été un tel tollé, ça a été une création dans le tumulte, ça a été épouvantable. On criait, écoutez d'abord, vous sifflerez après. Je vous en prie, on entendait Diaghilev lui-même qui criait, je vous en prie, laissez finir le spectacle. Et ça a été vraiment quelque chose d'épouvantable. Une dame a crié, on ne s'est jamais moqué de la sorte.